OK, le Canadien qui affronte les Blue Jackets, qui doit être content d'être de retour au Centre Bell, mais qui doit à tout prix stopper l'hémorragie ce soir. Et pour mettre la table, le collègue Jérémy Filosa est en bout de ligne. Salut, Philo!
Salut!
Et Claude Julien qui a brassé ses cartes pour l'occasion.
Ouais, puis moi, je suis vraiment pas un fan de ça, hein. Pas du tout. Le Canadien, selon moi, devrait regarder les choses en perspective et se dire, oui, on a perdu trois matchs en temps réglementaire consécutivement, mais il faut regarder que dans la séquence de quatre défaites, là, t'as des défaites contre les Maple Leafs, le Lightning et les Prédateurs de Nashville. T'sais, faut pas venir fou non plus, puis tout lancer dans les airs, puis dire, ben, on jette le bain avec l'eau du bain, puis on recommence à zéro. Pas à ce stade-ci de l'année. Les bonnes équipes là ne changent pas de trio soir après soir. On a été quand même bon cette année. J'ai trouvé que Claude Julien avait été bon en gardant la majorité du temps les mêmes joueurs ensemble. C'est pas en séparant des joueurs que tu vas te sortir d'une torpeur. En fait, les joueurs qui savent jouer ensemble, qui ont l'habitude de jouer ensemble, ont de bien meilleures chances de se sortir d'une passe difficile, si on peut l'appeler comme ça, des joueurs qui ont jamais joué ensemble de l'année.
Oui, mais si on prend l'exemple de Drouin, qui est un des problèmes présentement, il ramène avec Domi. Donc, ils ont déjà eu du succès ensemble. Alors, il y a quand même quelque chose de pas trop inconfortable non plus pour ces deux-là.
Je comprends, mais ça allait quand même bien avant cette séquence-là, avec Dano, avec Gallagher. Et puis moi, je dirais aux gars, écoutez, là, jusqu'à il y a une semaine, là, vous étiez un trio efficace. On revient à domicile, là, où le Canadien a quand même regagné du poil de la bête là depuis la pause du match des Étoiles. Moi, je ne jouerais pas trop avec cela. Surtout pas en m'en allant vers la fin de la saison. Parce que le message que tu lances aussi à ton équipe, c'est « Hey, là, on se cherche, puis on cherche des solutions, puis là, ça va pas bien. »
Ouais, on panique.
C'est ça. Alors que si tu remets tes trios ensemble, comme tu les avais il y a une semaine, ben ça donne à tes joueurs, tu leur montres que tu as confiance en eux, puis que tu penses qu'ils sont capables de s'en sortir par eux-mêmes avec les réflexes et les automatismes qu'ils ont développés au cours des derniers mois dans lesquels ils ont travaillé ensemble. Donc, moi, je suis vraiment pas fan de ça. Le Canadien, pendant longtemps, puis je m'en suis plaint, c'était des changements de trio pratique après pratique après. Mais on t'a même rendu dans les séries, puis on faisait des changements de trio là, à chaque match. C'est complètement ridicule. Tu peux pas gagner comme ça.
Oui.
On va voir ce que ça va donner ce soir.
Le pire, c'est que s'il avait battu les Panthers, on n'en parlerait même pas probablement. Et puis, moi, j'en revenais pas quand j'ai vu qu'il utilisait Price contre Tampa Bay samedi et Niemi le lendemain. Je veux pas faire mon smart, là, mais j'aurais fait le contraire parce que les chances de gagner contre Tampa Bay étaient minces de toute façon, mais il fallait absolument ramasser les deux points contre les Panthers de la Floride.
Moi, je suis d'accord avec toi à 100%, sauf que tu sais comment ça a ressorti. Le Canadien s'en va à Tampa, puis regarde, ils donnent les deux points vers la malle, puis ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Tu peux jamais gagner. La seule manière que tu peux gagner, c'est si la décision que tu prends avec tes gardiens s'avère positive.
C'est sûr.
Dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné, fait que tu te fais critiquer. Puis, comme je dis toujours, on peut pas être devin, même si on est l'entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Claude Julien pensait qu'il jouait bien ses cartes de cette façon-là. De toute façon, entre toi et moi, là, combien de matchs va jouer encore Niemi d'ici la fin de l'année? 2-3 maximum?
Pas plus.
C'est ça.
Pas plus. Puis, si on est honnête, on peut pas trop chioler en général contre les décisions de Claude Julien cette année. Il y a une pas pire moyenne au bâton.
Absolument. Même avec ses gardiens, ça lui a plus souvent qu'autrement souri.
Oui. Parlant de moyenne au bâton... Au baseball, l'attente en a valu la peine pour Manny Machado?
Ah, écoute, assez incroyable. Hein? On est rendu le 19 février. Encore beaucoup d'agents libres de très bonne qualité disponibles sur le marché, dont Machado et aussi Bryce Harper. Ben là, Machado, il s'est branché aujourd'hui. Il s'en va avec les Padres de San Diego pour 10 ans et 300 millions de dollars. C'est le contrat accordé à un joueur autonome le plus lucratif de l'histoire du sport nord-américain. Tout le sport confondu, là. Maintenant, la surprise, c'est que ce soit les Padres de San Diego. Alors, d'un côté, on se dit, maudite affaire, ça n'a aucun bon sens. Et d'un autre côté, on se dit, il y a 20 ans, là, est-ce que les Padres auraient pu rêver mettre la main sur le joueur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes? Probablement jamais. Donc, il y a du négatif puis il y a du positif un peu dans cette nouvelle-là. Mais je suis content pour les amateurs de baseball de San Diego parce qu'on va dire la vérité, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis plusieurs années. Puis là, pour une fois, ben, le party, c'est là-bas. Puis ça fait différent que tout le temps à Los Angeles, puis à New York, puis à Boston.
Et on verra ce que ça va donner. Et à la boxe, ouais. En terminant, ça regarde mieux, semble-t-il, là, pour un face-à-face éventuel entre Kovalev et Beterbiev.
Oui, bien, Kovalev et Beterbiev, c'est deux boxeurs qui se détestent, hein, parce que je pense qu'il y en a un des deux, si je ne me trompe pas, Kovalev est russe et l'autre est tchétchène, donc c'est elle n'a pas invité au même party. C'est deux gars qui se sont affrontés souvent chez les amateurs et ils ont... ça a été des guerres selon ce que ceux qui étaient présents ont dit. Puis là, ils se retrouvent chacun avec une ceinture de championnat du monde. Donc, le moment est idéal pour organiser un combat d'unification entre les deux. Maintenant, on sait, négocier avec Beterbiev, c'est jamais facile. Il y a plus de combats annulés que de combats qui ont vraiment lieu dans son cas.
Oui.
Donc, avant de le croire, je vais faire comme l'apôtre, là, je me souviens plus lequel, là, mais... il faut que je le voie avant de le croire.
C'est Thomas, ça, je pense. Là.
C'est Thomas, oh, c'est oui. Ça. Fait que, je vais faire mon Thomas, puis je vais dire que tant que les deux gars sont pas dans les rings face à face, je le croirai pas. Mais disons que c'est dans l'air, là, ce potentiel méga combat de boxe d'unification qu'on pourrait avoir, là, selon ce que tout le monde dit là, au début du mois de mai. Là.
Et comme on dit en anglais, là, ça serait un build-up incroyable. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est Kovalev qui évitait Beterbiev, qui le craignait un petit peu. Donc, c'était pas juste le clan Kovalev qui était le problème dans l'équation. Là.
Je dois te dire que je suis surpris de voir que c'est Kovalev qui a initié cela. Parce que avec le chaos qui s'est fait passer par Elider Alvarez, j'étais certain que Kovalev ne désirait pas affronter un cogneur comme Beterbiev, mais à un moment donné, comme ils disent en anglais, to be the man, you gotta beat the man. Fait que c'est ça. T'sais, mets tes culottes, puis vas-y, puis essaye-toi, puis moi je lève mon chapeau de vouloir ce combat d'unification-là, sachant très bien là que ça risque d'être très, très, très dur à encaisser. Là.
On s'en reparle bientôt. Bon match ce soir, okay. Philo.
Salut.
Merci.
Bye.